Il est 19h sur Europe 1, dans un instant, le retour des débats de Punchline, mais tout de suite, c'est le journal avec Alexandre Lemaire. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Et on commence par cette stupeur dans l'industrie navale française après l'annulation de la vente de sous-marins à l'Australie. L'affaire vire à la crise diplomatique entre Paris et Washington. Explication dans un instant.
Protection du patrimoine, allègements fiscaux. Emmanuel Macron multiplie les annonces en faveur des travailleurs indépendants fragilisés par la crise sanitaire.
Accalmie sur le front du Covid, justement, le chef de l'État réfléchit à moins de restrictions avec l'espoir de revivre normalement dans les territoires où le virus circule moins vite.
L'armée française a éliminé Al-Sarraoui, le chef de l'État islamique au Sahara. On en sait plus sur la frappe qui a permis sa neutralisation. La tendance météo, Marlène Duret.
Une météo temporairement calme demain, en tout cas bien plus sèche, avec un soleil qui percera plus ou moins généreusement avant l'arrivée de la pluie samedi par l'ouest. On fait un point complet en fin de journal. Europe 1.
L'industrie navale française est donc assommée après la perte du méga contrat de sous-marin avec l'Australie.
35 milliards d'euros torpillés, c'est la stupeur à Cherbourg. Le maire parle d'un coup de poignard. Sandrine Prioul, vous êtes sur place pour Europe 1. Les salariés de Naval Group sont sonnés par cette nouvelle.
Oui, surpris, abattu, en colère, vous avez des salariés très fiers de travailler pour Naval Group qui avait déroulé le tapis rouge aux Australiens. Le genre valait la chandelle, évidemment, 35 milliards d'euros à la clé, mais c'est fini. Et si le délégué CFE-CGC José Batista ne s'inquiète pas trop pour les reclassements des 500 salariés, cet après-midi, il a vu le PDG de Naval Group venir de Paris. Et dorénavant, l'enjeu, ce sont les recours, les pénalités à demander aux Australiens.
Le produit était satisfaisant, le travail des équipes a été correct, donc on ne peut pas être pénalisé sur cet aspect-là. Maintenant, derrière, eux, ils arrêtent le contrat. Donc forcément, il y avait des clauses derrière de claim ou des pénalités d'arrêt de contrat qui vont être négociées. Donc c'est pour ça que l'aspect du matériel, l'aspect des humains et l'aspect impact social va être tout ça mis dans une balance pour pouvoir derrière arriver à un montant qui soit gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Mais on ne parlera pas de milliards, peut-être de centaines de millions d'euros, mais pas forcément de milliards.
Plusieurs centaines de millions d'euros, et ce qui fait aussi grimper la facture, vous explique-t-on, ce sont tous les savoirs de pointe que les Australiens vont emporter chez eux d'ici quelques semaines.
Sandrine Prioul à Cherbourg pour Europe 1. Après cette volte-face de l'Australie à la dernière minute, la ministre des Armées Florence Parly a bien du mal à dissimuler sa colère.
C'est une très mauvaise nouvelle parce que c'est une remise en cause de la parole donnée. Il s'agissait d'un contrat qui avait été passé il y a plusieurs années, hein, il y a 5 ans de cela. Et ce contrat, il impliquait aussi l'Australie en tant qu'État, puisqu'il y avait un accord d'État à État qui avait été passé entre l'Australie et la France. Ce respect de la parole donnée, qui est quand même à la base des relations internationales, n'a pas été tenue.
Parole non tenue, regrette Florence Parly. C'est sous la pression américaine que l'Australie annule ce contrat du siècle avec la France. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Entre Paris et Washington, le torchon brûle, Alexis.
Oui, l'affaire tourne à la crise diplomatique. Il y a environ 2 heures, un haut responsable de la Maison-Blanche a d'abord fait savoir que des contacts ont eu lieu entre Français et Américains, y compris avant l'annonce de ce nouveau partenariat. Information démentie quelques minutes plus tard par l'ambassade française à Washington, qui dit avoir été informée du projet hier dans la presse australienne et américaine. Aux États-Unis, les journaux reprennent les déclarations de Jean-Yves Le Drian. La France indignée, dit par exemple le New York Times, qui estime que le langage employé par Paris n'a pas été vu depuis 2003 et le désaccord sur la guerre en Irak. Alors hier, Joe Biden a tout de même essayé de mettre les formes pour le président américain. La France reste un partenaire clé dans cette zone indo-pacifique. Et en tout cas, ce partenariat avec l'Australie, c'est la confirmation de la nouvelle stratégie américaine. Joe Biden l'a répété à plusieurs reprises. Sa priorité, c'est bien le Pacifique pour y contenir les ambitions de la Chine. Un virage entamé il y a 10 ans sous Barack Obama. Et puis, autre confirmation, et là, ce n'est pas une surprise, malgré ses discours sur le multilatéralisme, Joe Biden agit bien selon ses propres intérêts, quitte à provoquer la colère de ses alliés européens. On l'a déjà vu le mois dernier en Afghanistan, où le retrait américain s'est fait sans concertation.
Alexis Guilleux, en direct des États-Unis.
Emmanuel Macron lance un plan pour mieux protéger les travailleurs indépendants.
Beaucoup d'annonces de la part du chef de l'État aujourd'hui pour les 3 millions d'indépendants, maçons ou plombiers, bouchers ou boulangers. Des mesures tout à la fois pour protéger un statut fragilisé par la crise et cajoler un électorat précieux, Jacques Sauret.
D'entrée devant 600 membres de l'UDP, la principale organisation des indépendants, Emmanuel Macron prononce un discours aux allures de meeting.
Vous représentez des femmes et des hommes qui travaillent dur et font avancer le pays.
Artisans, commerçants, professions libérales, certains ont subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. À l'aube de la reprise économique, le chef de l'État veut aujourd'hui leur donner des garanties.
Vous le savez, l'ensemble du patrimoine d'un indépendant peut être saisi en cas de défaillance professionnelle. Désormais, seuls les éléments indispensables à l'exercice de son activité professionnelle pourront être saisis en cas de défaillance.
Patrimoine personnel insaisissable, accès à l'assurance chômage facilité, Emmanuel Macron multiplie les annonces.
Désormais, le cédant pourra bénéficier d'une exonération totale des plus-values si la valeur d'entreprise n'excède pas 500 000 euros, alors que c'est aujourd'hui 300 000 euros.
Une vingtaine de mesures au total, certaines étaient des demandes ancestrales, confie le patron des petits patrons. Celles-ci verront le jour dès janvier prochain, à 3 mois de la présidentielle.
Jacques Serret, du service politique d'Europe 1.
La situation s'améliore sur le front du Covid. Emmanuel Macron pourrait bientôt alléger les restrictions, Alexandre.
À commencer par le pass sanitaire. Le chef de l'État a même donné l'espoir ce matin de bientôt revivre normalement. Ce sont ses mots. L'idée est de lever certaines contraintes dans les territoires où le recul du virus se confirme. L'épidémiologiste Antoine Flahaut se montre optimiste.
Il y a une décrue épidémique dans beaucoup de pays d'Europe, mais très particulièrement et très notablement en France, où on peut prédire d'ailleurs que dans une semaine, on aura moins de 5000 nouvelles contaminations par jour, ce qui était, si vous vous souvenez, l'objectif du président de la République comme un objectif de décrue épidémique. Alors, on a réalisé désormais que la meilleure riposte à cette pandémie, c'était, vous me permettrez, venant de Suisse, la métaphore de l'Emmental, c'est que chacune des tranches est pleine de trous, c'est-à-dire que oui, la vaccination n'est pas efficace à 100%, les masques non plus, le pass sanitaire non plus, mais l'ensemble de ce dispositif permet de contrôler l'épidémie. Alors, quand le virus circule beaucoup, beaucoup moins dans la population, comme ça va être le cas en France, nous pouvons l'espérer dans 2 semaines peut-être, alors, en effet, vous pouvez commencer à enlever des tranches.
Le professeur Antoine Flahaut, directeur de l'Institut de Santé de Genève en Suisse, donc avec Romain Desarbres dans Europe Midi. Marks & Spencer va fermer plus de la moitié de ses magasins en France. La chaîne britannique a trop de problèmes d'importation de produits frais du Royaume-Uni à cause du Brexit. 11 magasins fermeront donc avant la fin de l'année, la plupart à Paris.
Restez avec nous dans un instant. On vous explique comment l'armée française a éliminé Al-Sawarawi, le chef de l'État islamique au Sahara. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve évidemment dans le journal de 19h avec cette information. Il était l'ennemi numéro 1 au Sahel. Les forces françaises ont éliminé Al-Sahraoui, le chef de l'État islamique au Sahara, Alexandre Lemaire.
Un succès majeur, a tweeté le président de la République. Al-Sahraoui a été tué par les militaires français de Barkhane et leurs partenaires. Emmanuel Macron a annoncé sa mort la nuit dernière. Mais la frappe contre Al-Sahraoui remonte au mois dernier, Marion Gauthier.
Oui, le 17 août, un drone de la force Barkhane neutralise alors une moto et ses 2 passagers. C'est le début d'une opération de 6 jours pour fouiller des zones occupées par le groupe terroriste. Thierry Burkhard, le chef d'état-major des armées, fait état d'une 10aine de morts.
Tout indique aujourd'hui qu'il était un des 2 passagers sur la moto qui a été ciblée le 17 août.
Adnan Abou Walid Al-Sahraoui était traqué comme premier chef djihadiste du Sahel à faire allégeance à Daesh en 2015, responsable de la mort de 2 à 3000 civils dans la région depuis 2013. Sanguinaire, résume Bernard Aimier, le directeur de la DGSE.
Il fédérait dans un même groupe, porteur d'une idéologie djihadiste violente, différentes communautés locales, faisant de lui un chef très redoutable. Il se caractérisait par sa cruauté, ses exécutions publiques sanglantes, filmées, diffusées, exploitées. Adnan Abou Walid Al-Sahraoui a ordonné et suivi personnellement la conduite du massacre de Kouré contre les 6 humanitaires français d'Acted et leur guide nigérien.
L'État islamique au Grand Sahara est décapité, insiste-t-il, certain qu'il sera extrêmement difficile pour l'organisation de remplacer sa figure historique. Le combat continue malgré tout. La ministre des Armées assure aujourd'hui que la France ne quittera pas le Sahel, que la lutte contre le terrorisme restera sa priorité absolue.
Marion Gauthier.
Et puis c'est une nouvelle journée très dure au procès des attentats du 13 novembre 2015.
La cour a diffusé des images des terrasses de café mitraillées par les terroristes. Les enquêteurs de la brigade criminelle ont détaillé leurs constatations. On a vu le Stade de France, mais surtout les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge. À la barre, l'émotion du policier était palpable. Gladys Laffitte.
Oui, car lui-même a participé aux constatations, la gorge nouée. Il explique d'abord que malgré l'expérience, ses collègues et lui ont été sidérés. Ils ont dû prendre un moment sur place pour mettre de côté leurs émotions. Ils n'ont pas travaillé sur une scène de crime, mais sur une scène de guerre, dit-il. Pour le démontrer, l'enquêteur diffuse sur un écran des photos des lieux parsemés de chevalets jaunes numérotés. À chaque lettre, une victime. Il en nomme 13 mâchoires serrées. C'est lui qui les a identifiées. Elles ont été interrompues dans leur activité festive. Regardez, là, il y a encore des bols, les gens étaient attablés, décrypte le policier. La salle retient son souffle, confronté à l'intérieur du petit Cambodge, souillé de sang. Sur les vitres, des trous de plusieurs centimètres. 4 chargeurs ont été vidés ici, 121 cartouches tirées en l'espace de 2 minutes 30.
Gladys Laffitte au procès des attentats du 13 novembre.
9 personnes sont mortes noyées hier en se baignant en Méditerranée.
Oui, les victimes étaient âgées de 58 à 80 ans. Elles ont été prises dans ce qu'on appelle un coup de mer. En fait, une houle très forte. Stéphane Burgat, vous avez rencontré des habitués de la plage de La Ciotat où une personne est morte noyée. Beaucoup d'incompréhension après ces noyades, Stéphane, en raison de l'âge des victimes et de l'état de la mer.
Oui, parce que la mer était clairement déchaînée, selon Gisèle, qui exceptionnellement s'est abstenue de nager ce jour-là.
Des vagues qui étaient plus hautes que moi, c'est-à-dire 1m60. Donc si moi j'avais dû me baigner, j'aurais tout de même eu du mal. On est vieux, donc il faut tout de même faire attention.
Voilà, un temps orageux et une mer agitée, mais une eau à la température aussi douce qu'au beau jour. Et c'est là le piège, selon Thomas, un surfeur qui profitait justement des vagues hier.
Hier, il y en avait qui nageaient justement avec des sortes de nageoires là, sur les mains. Là. Et la différence avec le surf, c'est qu'on a une autre bouée, c'est la planche, quoi. Alors que les nageurs, ils n'ont pas de bouée s'ils ont une crampe ou quoi que ce soit.
Et c'est un danger que beaucoup ne voient pas venir. Il ne faut pas surestimer ses capacités physiques, avertit Grégory Coutarel, le commandant des sauveteurs aquatiques des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône.
L'idéal, c'est que quand on a un coup de la mer, il faut absolument éviter de se baigner. Encore plus se baigner tout seul, sans prévenir son entourage. Et dans la mesure du possible, ne pas surestimer ses forces, parce que souvent, les éléments sont plus forts que nous.
Et les pompiers qui avertissent avec ce retour prévu d'un vent d'est qui pourrait rendre la mer à nouveau chaotique jusqu'à demain.
Et Stéphane Burgat à La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône. La météo, Marlène Duret, il n'y a plus aucun département aujourd'hui en vigilance orange. On aura d'ailleurs une belle amélioration ce vendredi.
Oui, temporaire certes, mais on va clairement vers l'amélioration avec au réveil plus ou moins de nuages, parfois quelques brouillards, mais dans l'après-midi, parce que c'est ce qu'il faut retenir, c'est que le temps sera lumineux sur l'ensemble du pays, carrément radieux entre la Garonne et la Méditerranée. Alors sur le relief des Alpes, du Massif central, des Pyrénées et de la Corse, le ciel va se charger en nuages, avec un petit risque d'averse, peut-être un orage même sur les Alpes du Sud. Et puis, il y a surtout le ciel qui va se couvrir en Bretagne. La pluie arrosera parfois copieusement l'ouest de la péninsule. Et ça, c'est le signe d'une perturbation qui va nous concerner pour la journée de samedi. Du côté des températures, il fera 20 à 25 degrés dans la plupart des régions. Un petit peu plus sur le pourtour méditerranéen, avec 24 à 28, jusqu'à 29-30 en Provence et en Corse, et à propos de la Corse, le nombre record de jours à plus de 30 degrés, en tout cas pour un mois de septembre, a déjà été battu à Figari et à Ajaccio. À Figari, on a eu 13 jours à plus de 30 degrés contre 12 en 2019. Et si on fait le bilan de cette première quinzaine de septembre, je ne vous apprends rien. Septembre a été plus chaud que juillet, août. Sur toutes les premières quinzaines de septembre depuis 1947, l'année 2021 arrive en deuxième position derrière 2016.
Merci beaucoup, voilà. Marlène Duret, pour ces chiffres éloquent.